Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis.
La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
Alors, nouvelle saisie de drogue.
80 000 doses d'héroïne.
Cette présence accrue de fentanyl.
Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal.
Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos, PQ, c'est là qu'on va les découvrir.
Salut, c'est Brigitte Noël. Aujourd'hui, je suis en studio avec Félix.
Salut Brigitte, on remet ça. Good.
Re-bienvenue.
Re-bienvenue à Narcos PQ.
Aujourd'hui, on vous présente un épisode spécial de Narcos PQ. C'est pas un nouvel épisode en tant que tel. On a déjà consacré un épisode à l'histoire incroyable d'Alain Olivier, que vous pouvez retrouver dans notre fil d'ailleurs.
On a pensé au fond que ce serait un moment très intéressant pour vous présenter l'entrevue que l'on a faite avec Alain Olivier. Printemps 2019, c'est Pâques. On est au festival Transistor, un festival de balado qui se déroule à Gatineau. Et on enregistre cette entrevue avec Alain Olivier, qui, rappelons-le, parce que là, vous allez l'entendre, mais il faut vous dire c'est qui. C'est un homme qui a été faussement accusé, emprisonné en Thaïlande dans un complot d'importation d'héroïne. Une histoire complètement débile. Tellement débile, en fait, que le réalisateur, le cinéaste Daniel Roby a décidé de faire un film sur sa vie. Et il sera... disponible partout sur les écrans de cinéma très bientôt.
Donc, pour mieux séparer la vérité de la fiction et pour entendre l'histoire au complet directement de la bouche de celui qui l'a vécu, on vous propose ici l'intégrale de notre conversation avec Alain Olivier, enregistrée devant public. Donc, je dois remercier Alain Olivier pour sa générosité. C'était une conversation complètement hallucinante.
Et portez bien attention, parce que faut que vous connaissiez le contexte de cette entrevue-là. On enregistre donc devant public au Festival Transistor et il commence à raconter son histoire. Il y a un timbre de voix, il y a un calme très particulier et il s'installe un silence presque monastique dans cette salle-là. Et on voit que des gens sont très, très touchés, très, très émus. On vit un moment, genre, il y a comme une forme de communion, c'est weird, là, qui s'installe là, à ce moment-là, mais c'est un moment touchant pour tout le monde et je pense que ça transparaît dans l'audio aussi.
Ouais, quel personnage. Salut tout le monde, merci d'être aux premières.
Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Merci d'être ici pour le premier enregistrement live de Narcos PQ. Merci beaucoup au Festival Transistor de nous accueillir. On est vraiment contents d'être ici à Gatineau. Aujourd'hui, c'est une histoire assez particulière. La personne que vous allez rencontrer aujourd'hui qui vient nous parler a passé 8 ans dans une prison en Thaïlande pour une histoire de trafic d'héroïne, mais ce n'est pas un narcotrafiquant. Son histoire ressemble plutôt à un genre de « making a murderer » du monde de la drogue. C'est un récit complètement rocambolesque d'erreurs sur la personne, d'opérations policières botchées et de vies brisées. Je vais vous remettre dans le contexte parce que ça s'est passé dans les années 80. C'est un récit qui a quand même fait les manchettes. Si vous vous dites que ça sonne un peu comme un film, ben ça va en être un. Il y a une production hollywoodienne avec, entre autres, Josh Hartnett et Antoine-Olivier Pilon qui va sortir bientôt. Bientôt en cet automne.
Oh oui, bientôt.
Ouais, bientôt. Bref. Fin des années 80, la police cherche à démanteler un important réseau de trafic international d'héroïne. Pour une raison ou une autre, ils se rabattent sur le Québécois Alain Olivier. Ils pensent qu'Alain Olivier est un gros baron de la drogue internationale quand, en réalité, Alain Olivier n'est qu'un petit toxicomane. les autorités essaient de le faire confesser, elles essaient de voir à quel niveau il est impliqué. Ils l'embobinent dans une espèce d'opération qu'on connaît aujourd'hui comme une opération Mr. Big. Sauf que dans le cas d'Alain Olivier, puisqu'il n'est pas un trafiquant, s'il n'y avait pas eu d'interférence de la part de la police, ben, il n'y aurait pas eu de crime.
En fait, il faut comprendre dans tout ça l'importance de l'opération Mr. Big. Parce que c'est à peu près le dernier rempart du code criminel puis de ce qu'autorisent les juges à la police. Mr. Big, en fait, c'est une pièce de théâtre dans laquelle le policier qui veut faire avouer un suspect et qui a utilisé toutes les autres méthodes à sa disposition, exemple, il veut faire avouer un suspect qui a tué telle ou telle personne et qui n'est pas capable de le prouver. De rares fois, il est autorisé par la cour à utiliser l'opération Mr. Big. On va monter une pièce de théâtre à l'accusé et finalement, on va lui faire croire, souvent le scénario principal, c'est qu'on va lui faire croire qu'il fait partie d'une organisation criminelle et tout ça. Mais c'est une opération qui est balisée par le code criminel et c'est une opération de dernier recours. Et parfois, ça va pas bien, pantoute, et des fois, c'est pas nécessaire du tout. C'était le cas d'Alain Olivier.
Alors, sans plus tarder, Alain Olivier. Fait qu'on va commencer l'histoire en 87. Tu habitais alors à Gibson.
Gibson's Landing, en Colombie-Britannique.
Parle-nous de qui tu étais à l'époque, de qu'est-ce que tu faisais là-bas.
Moi, j'étais un planteur d'arbres, puis je travaillais aussi sur un petit bateau de pêche. Puis je me suis ramassé, à un moment donné, à rencontrer une personne qui se disait pêcheur professionnel, puis m'invitait à m'associer avec lui dans sa compagnie. Puis à cette époque-là, moi, j'arrivais de Katmandou, j'étais accroché à l'héroïne. J'étais tout simplement un junkie, j'étais rien de plus. Puis à mon retour, j'avais ramené quelques grammes d'héroïne pour ma consommation personnelle. Puis il en a fait avec moi, puis il s'est mis à faire un paquet de drogue avec moi, puis lorsqu'il a passé mon nom de famille, puis ma date de naissance dans la banque de la GRC, il y a un record criminel qui est sorti avec plusieurs convictions, que ce soit pour de la drogue, de la violence, des armes à feu, etc. Puis ça m'appartenait pas. Une semaine après, mais les mêmes agents de la GRC sont venus sur mon bateau pour aller à la pêche. Ils sont partis deux bonhommes. Puis trois jours après, il y en a seulement un qui est revenu, puis il y avait du sang à la grandeur du bateau avec des balles vides de 9 mm pour me faire croire qu'il avait tué quelqu'un. C'est un scénario de meurtre qui était fait pour m'inciter à les accompagner.
Donc Alain le pêcheur, c'est un agent double.
C'est un agent double qui s'appelait Glenn Barry. Il a changé de nom à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il vit caché, on ne sait pas où, mais il a été payé 120 000 $ exempt d'impôts pour me freiner. Puis il travaille pour le GRC depuis. C'est un informateur au début qui avait été retrouvé coupable pour fraude, possession de drogue, vol et recel. Un citoyen exemplaire là, que le GRC a ramassé afin de faire le travail sale. C'est ça qui est arrivé.
Fait que probablement que t'es pas le seul à avoir été framé par cet agent-là, mais si on revient à ton histoire, donc le bateau revient, et là, il y a du sang à grandeur.
Il y a des taches de sang, puis moi, en rentrant sur le bateau, je me suis aperçu qu'il manquait un des individus. Puis lorsque j'ai regardé à terre,
surtout,
j'ai vu...
il y avait des traces de sang, mais il manquait quelqu'un.
Puis il y avait, en regardant sur le plancher, mais j'ai trouvé deux cartouches vides de 9 mm. Puis lorsque j'ai amené les cartouches à Glenn Barry, mon associé dans la compagnie de bateaux pour la pêche au saumon, il m'a dit de pas poser de questions, que son chum, il venait de tuer l'autre gars parce qu'il posait trop de questions, puis il amenait des problèmes à leurs organisations. La même chose était pour m'arriver si j'écoutais pas ce qu'il me disait.
Fait que là, tu te sens coincé, là. T'es comme un peu complice à un meurtre.
Ben moi, j'ai toujours été peace and love. J'étais un musicien aussi. En plus, j'ai travaillé dans le bois toute ma vie. Puis, me ramasser confronté à une scène, ce qui avait toutes les allures d'une scène de crime, dans le fond, sur le bateau sur lequel je vivais, en plus. Oui, j'ai eu peur. J'ai pogné, comme on dit en québécois, j'ai pogné la chienne. Le monde peut... C'est dur de s'imaginer la réaction qu'on peut avoir. mais c'était le début seulement d'une longue aventure. Puis ça a duré 18 mois comme ça par la suite, qui m'ont poursuivi à travers le Canada à me faire des menaces.
En même temps, tu es accro à l'héros à ce moment-là. C'est sûr que tu es désorganisé dans ta tête. Là. C'est sûr que ça. C'est sûr qu'un individu qui n'est pas accro à l'héros ou qui n'est pas un gros consommateur dans la même situation aurait peut-être eu.
Ça l'affecte notre jugement.
Différent. Ça affecte
ça l'affecte le jugement, mais c'est pas juste ça aussi. L'héroïne, moi, c'était devenu ma façon de fuir la réalité. Fait que même face à toutes les menaces que j'ai eues, quand je sentais trop de pression, mais l'héroïne, c'était mon exutoire pour tout oublier. Mais c'était pas rien pour arranger la situation parce que le problème est encore là le lendemain.
Fait que là, ta relation avec eux continue de se tisser. Parle-nous un peu de comme ton parcours avec ces agents doubles-là qui talonnent.
Après le scénario de meurtre, ils ont commencé à me demander si je serais intéressé à les accompagner en Thaïlande pour les introduire à une source d'héroïne. Puis moi, tout ce que je leur disais à l'époque, c'est que je connaissais les seules sources que je connaissais, c'était des chauffeurs de tuk-tuk, rien de plus.
Tu connaissais pas des gros barons de la drogue?
Non.
On peut dire que c'est pas...
Sauf que la GRC, à ce moment-là, quand ils ont fait l'erreur d'identité, ils ont vu mon nom de famille, ma date de naissance, avec un record criminel, comme je disais, pour la drogue, la violence, les armes à feu et tout le tralala, ça m'appartenait pas, mais eux autres, ils étaient convaincus que ça m'appartenait. Fait qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour me convaincre d'aller en Thaïlande. Puis pendant 18 mois de temps, ils m'ont fait des menaces. Ils m'ont offert de payer toutes mes dépenses. Ils l'ont fait d'ailleurs. Ils ont payé mon ticket d'avion et tout, pour être là-bas en Thaïlande. Puis ils me donnaient en plus 10 % de la quantité d'héroïne qu'ils achetaient là-bas.
Tu as été en Thaïlande. C'était quoi ce moment-là d'embarquer sur l'avion? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller finalement?
Ben moi, quand ils ont payé mon ticket d'avion, en fait, c'est que ils sont venus me chercher ici à Montréal, de Vancouver. Ils sont venus deux fois. Ils sont venus me chercher ici. Puis moi, j'ai refusé de partir. Ils ont voulu même s'en prendre à ma famille. Ils savaient ce que ma famille demeurait. Ils ont fait des menaces. Ils étaient s'en prendre à mon père pas à ma mère, qui était rendu quand même. Mon père était rendu à 80 ans à l'époque. Là. Puis ça a été une pression constante, pendant 18 mois pour me convaincre de les accompagner là-bas. Mais quand on pense qu'on parle puis on fait face à des tueurs, puis que ces mêmes gens-là vont parcourir 5 000 kilomètres pour... Ils vont traverser le pays en entier pour venir te faire passer leur message.
C'est sûr que ça peut avoir l'air convaincant.
Puis le Mr. Big en question, le sergent de cette opération-là, qui était le sergent Jacked Up, il pèse environ 350 livres.
Encore plus convaincant.
Puis il mesure 5 et 9, 5 et 10.
Ah, c'est un peu moins. Mais quand est-ce que tu embarques dans l'avion? Raconte-nous, là, donc, t'embarques dans l'avion,
quand ils sont en venue ici, ils m'ont rappelé, bien, ils m'ont dit, OK, tu vas décoller pour la Thaïlande, on a préparé ton ticket d'avion puis tout. Moi, j'ai pris l'avion jusqu'à Vancouver, c'est même ma mère qui a payé mon avion, parce que j'avais pas une scène. Puis je savais qu'ils voulaient s'en prendre à ma famille par moi. Puis quand je suis arrivé à Vancouver, celui qui était mon associé dans la compagnie de pêche, je me suis ramassé tout seul avec d'une chambre. La GRC l'avait ramené dans mon entourage pour une dernière rencontre pour me faire passer leur message que si c'était pour aller mal en Thaïlande, il était carrément pour me tuer. Mais j'ai vécu 18 mois de temps avec la crainte de me faire tuer parce que ces gens-là ont créé un scénario sur mon bateau, un scénario de meurtre. Puis ils m'ont fait à croire que je t'ai rendu complice de meurtre, que j'avais manipulé de la preuve d'un meurtre en prenant les cartouches dans mes mains et tout. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas eu le choix à un moment donné. La pression est devenue tellement forte que dans la dernière rencontre, quand ils sont venus ici au Québec, ils m'ont dit « On va te donner pour 3 millions en héroïne. On va te donner 1 kilo d'héroïne. » Ils me donnaient 10 % de la quantité qu'ils achetaient là-bas.
Mais c'était toi qui étais responsable de trouver...
Moi, j'étais seulement responsable de les introduire à une source d'héroïne. J'en avais pas.
D'aller trouver 30 millions d'héroïne en tuk-tuk.
Ouais, en tuk-tuk. Fait que c'est tu bon. T'atterris en Thaïlande, puis qu'est-ce qui se passe?
Ben, une fois rendu à Bangkok, j'ai pris l'autobus le lendemain matin pour Chiang Mai.
Comme un baron le ferait.
Oui, en autobus.
À la manière de Pablo Escobar.
Ouais, en autobus, puis une longue ride. Puis en arrivant à Chiang Mai, j'étais on avait une entente, j'étais pour les rencontrer dans un hôtel qui s'appelait le Maping Hotel. Puis dans les jours suivants, je les ai rencontrés là. Puis je les ai introduits ensuite à un chauffeur de tuk-tuk.
Après?
Puis au moment, quand ils sont allés faire la transaction, moi, ma job était faite. J'ai voulu m'éloigner, m'en aller, mais ils m'ont amené avec eux autres sur le lieu de la transaction.
Puis la transaction, là, t'avais rien de garanti, là. Il n'y avait pas de...
Ben moi, je savais que les Thaïlandais, là, ils l'avaient, la drogue, parce que... Le Thaïlandais que j'ai rencontré là, moi, quand je suis arrivé là-bas, je suis parti du Canada, en fait, avec une photo d'un chauffeur de tuk-tuk qu'un Québécois connaissait. Puis je suis arrivé dans un hôtel à Chiang Mai qui s'appelait le Porn Hotel. Puis je suis arrivé avec cette photo-là, puis je me suis fait indiquer que le chauffeur de tuk-tuk, qui s'appelait, ironiquement, c'était son surnom, il s'appelait Porn, lui aussi.
C'est un nom commun, en fait.
C'est un nom commun là-bas, mais il dormait dans son tuk-tuk. Puis je lui ai montré la photo que j'avais d'un Québécois ici avec sa femme. Ah, il dit, mon ami Richard, sa femme. J'ai dit oui, puis je lui ai dit, moi, je suis ici parce qu'il y a du monde qui veut avoir de l'héroïne. Est-ce que tu peux m'aider? Puis il m'a dit, ma sœur pourrait possiblement t'aider. Puis au moment de faire la transaction avec la sœur, la transaction n'a pas marché parce qu'elle, elle a pensé que c'était des polices.
Elle avait raison.
On était dans une slum, dans le bidonville de Chiang Mai, puis il y a des enfants autour de sa maison à elle qui ont spoté des policiers sur des vélos. Puis elle a décidé de ne pas faire la transaction. Puis elle m'a dit, Alain, elle dit, c'est des policiers, eux autres. J'ai dit, ça se peut pas, ils ont tué du monde sur mon bateau. Ça peut pas être des tueurs, ils ont tué du monde. Christ, j'ai vu le sang, j'ai vu les balles. J'y avais dans mes mains, c'est sans compter toutes les menaces. C'est toute l'incitation au crime, un peu comme aussi m'offrir un pourcentage de la drogue. J'étais un junkie. C'est un peu comme offrir de l'alcool à un alcoolique pour lui faire faire du travail. C'est contre la loi. Ça fait partie des critères d'entrapment au Canada. C'est illégal complètement.
Donc, une première fois, ça fonctionne pas. Donc, il y a, après ça, donc, ça continue.
Il y a eu deux autres tentatives par la suite, puis ça n'a pas marché non plus. Parce que les membres de la GRC voulaient absolument faire leurs transactions, eux autres, dans un lieu public, plutôt que dans un lieu qui était un petit peu plus à l'écart. Finalement, il y a une telle... Le chauffeur de tuk-tuk en question m'a présenté à un autre de ses amis, une petite fille puis sa sœur, qui était dans la vingtaine. Puis eux autres, ils ont décidé qu'ils étaient prêts à faire la transaction, puis ils ont proposé de la faire dans le stationnement d'un cinéma à côté de l'hôtel. Puis, une fois qu'on est sorti de l'hôtel pour aller vers la transaction, c'est là que j'ai voulu les quitter, puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, non, tu viens avec nous autres, t'es notre police d'assurance, que tout va bien aller. Puis, au moment de la transaction, mais il y a un des membres de la GRC qui a sauté sur le Thaïlandais qui avait le sac de drogue. Puis son copain, mais lui, son collègue, il a sauté dans la boîte du camion où la bagarre se déroulait. Puis, à ce moment-là, le truck est décollé, puis... Il y a un agent de la GRC qui s'est fait tirer une balle dans la tête. Il s'est fait tirer une balle dans la tête par son collègue. Puis ils sont revenus ici, puis ils ont dit que le membre de la GRC en question est tombé. Puis il s'était cassé le cou, qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Puis moi, on m'a fait condamner à mort pour ça, pour m'empêcher d'en témoigner.
Ouais. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où cette affaire-là, qui est complètement invraisemblable, encore une fois, se produit? T'es arrêté?
J'ai été arrêté. J'ai été arrêté par un membre de la GRC qui m'a remis aux autorités thaïlandaises ensuite.
Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle sorte de conversation?
Ben, quand il m'a arrêté, la première affaire qu'il a dit, c'est un gars de 6 pieds 4 qui faisait probablement 130, 140 livres de plus pesant que moi. Moi, je faisais 120 livres à l'époque. C'est lui qui m'a arrêté. Il m'a lancé d'un fossé. Il a sauté par-dessus moi. Puis là, il m'a dit, « I got you now, motherfucker. » C'est ça qu'il m'a dit. Puis au moment qu'il m'a dit ça, mais quand on a relevé les yeux, on a vu la camionnette se diriger avec les membres de la GSC qui se battaient à l'arrière du camion avec les Thaïlandais. Puis peut-être à 200-300 pieds plus loin, on était en pleine noirceur. On voyait juste les lumières du camion. Tout à coup, les lumières de break se sont allumées en arrière, puis on a entendu un coup de feu. C'est là que le gars de la GRC m'a dit « Who's got a gun? Where is your gun? » On n'avait pas de gun. Les seuls qui avaient des guns, c'était eux autres. Mais ironiquement, dans le grand scheme de ce qui s'est passé dans cette histoire-là, un général thaïlandais, trois jours plus tard, après toute la couverture médiatique qui avait déclaré que Flanagan s'était fait tirer une balle dans la tête, mais ça a passé à la radio, à la télévision, dans tous les journaux thaïlandais puis anglais de Bangkok, qui s'était fait tirer une balle. Les docteurs ont témoigné qu'il avait enlevé une balle de son crâne. Il y a un général qui est allé dire que les médias s'étaient trompés, qu'il n'y avait jamais eu de coup de feu. Puis ils ont enterré l'histoire. La GRC est revenue ici avec la dépouille de leurs camarades. Ils sont arrivés le vendredi matin après que je me suis fait arrêter, moi, le 19 février 89. Puis le 24 février 89, ils sont revenus ici avec la dépouille de Flanagan à Vancouver. Il a été dirigé directement au crématorium où ils l'ont incinéré contre le désir de la famille. Il n'y a pas eu d'autopsie au Canada.
Parle-moi de ton séjour de 8 ans en prison thaïlandaise.
8 ans et demi, en fait. Au-dessus de 3100 jours. Sur cette période-là, j'ai passé 1188 jours. J'ai passé 3 ans et demi enchaînés. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec 20 livres de chaîne aux pieds. J'ai des photos que je pourrais vous montrer, qui est une gracieuseté de la GRC, qui m'ont pris en photo à mon procès à Bangkok, lorsque je traversais la rue. Mais sur la photo, j'ai pas 20 livres, mais 40 livres de chaîne. Parce qu'à nos sorties devant le tribunal pour une comparution, on nous rajoutait une chaîne. Puis vu que lors de la transaction, la GRC, les Thaïlandais ne les ont pas dealé 10 kilos d'un coup, ils en ont donné 2,4 kilos, mais c'était au-dessus de 100 grammes. Puis au-dessus de 100 grammes, c'est la peine de mort en Thaïlande. Puis à ce moment-là, quand tu vas au tribunal, mais on te rajoute une chaîne en plus de la chaîne que tu portes au quotidien en prison pour faire sûr que tu restes les pieds bien ancrés à terre, puis t'essayes pas de te pousser. C'est des conditions absolument terribles.
J'ai une question là-dessus. Tu entres là, t'es héroïnomane. Donc, on peut penser que dans les journées qui ont précédé ton arrestation, t'as fait de l'héro.
J'ai fait de l'héro, aller jusqu'à quelques heures avant mon arrestation.
Donc, en même temps que tu entres en prison, t'es en sevrage aussi.
Quand j'ai été arrêté dans les heures qui ont suivi au poste de police, parce qu'ils ont fait une réanimation des événements du Buy and Bus qu'il y a eu là-bas, il y avait des Thaïlandais de différents corps policiers avec des caméras. Puis ils ont décidé de tout réanimer la scène, sauf que ce coup-là, Flanagan ne se faisait plus tirer. Mais moi, j'étais pas capable de suivre le lendemain de mon arrestation. Durant mon interrogatoire, j'ai passé des heures avec un gun sur ma tête pour manger des baffes. Quand je suis tombé vraiment en manque, mais j'ai vomi sur le policier qui conduisait mon interrogatoire. Parce qu'il voulait me... Il avait son gun sur ma tête, puis il arrêtait pas de dire que j'étais un homme mort. Puis je suis venu tellement à bout que j'étais en sevrage en plus, j'étais sur le bord, puis je l'ai attendu devant eux, j'ai vomi dessus. Puis ils ont été obligés de me ramener pour devant un autre. Par le temps qu'ils m'ont ramené à cellule en bas, j'étais malade, mais dans cellule au poste de police, il y avait un petit Thaïlandais qui en vendait. J'ai échangé ma montre contre l'héroïne. Puis même le lendemain matin, ça c'est la deuxième journée que j'ai changé ma montre, mais le lendemain matin, avant qu'ils fassent toute la réanimation des événements, le major Sompop de Chiang Mai, il a vu que je n'étais pas en condition de participer à cette journée-là de réanimation des événements, qui était pour être faite sur vidéo puis photo et tout, fait que c'est lui qui m'a amené, il a envoyé quelqu'un pour m'amener de l'héroïne qui était pliée dans un papier journal. Si ça n'avait pas été de l'héroïne, aussi néfaste que ça peut être pour la santé, j'aurais pas été capable de suivre, puis probablement que j'aurais pas... les 3 premières années et demie de ma condamnation, de ma sentence, jusqu'à temps que je sois avec la cour d'appel confirme que je ne serais pas exécuté en 92, je faisais de l'héroïne à tous les jours en prison. Il y en avait, là, ça rentre au kilo dans la prison, là.
Ça ressemble à quoi, une prison thaïlandaise?
La prison de Bamgwan, c'est au-dessus de 8000 prisonniers. C'est 6 sections. Tu vis dans des cellules. Il y a comme 48 cellules sur 2 planchers, comme 96 cellules dans chaque section. Il y a des cellules plus petites, il y en a des plus grandes. Tu peux être 30 à 40 dans une cellule. La première prison où j'étais, on était 100 par cellule. La cellule a fait 24 pieds de long par 16 pieds de large. Moi, j'ai été tellement crowdé dans des cellules qu'il fallait que je dorme sur le côté. Parce qu'à mon entrée à la prison, la cellule où je suis allé, dans la cellule numéro 10, c'est moi qui ai demandé de rester là en bout de ligne, mais c'était la cellule où tous les nouveaux arrivaient, puis tous les condamnés à mort et tous les autres passaient leur dernière nuit. J'ai passé 18 mois dans cette cellule-là, mais il fallait dormir sur le côté parce qu'il y avait trop de monde dans la cellule. Puis avec les chaînes aux pieds, mais c'est le bruit. Ça fait clink, clink, clink. C'est un bruit qui reste dans notre tête après, un peu comme une note de musique. Puis j'ai encore ce bruit-là qui va me suivre toute ma vie dans ma tête. Puis c'est aussi l'humiliation. Moi, j'ai jamais attaché un animal de ma vie, puis j'ai eu des animaux toute ma vie. Puis je me suis ramassé du jour au lendemain avoir le pied sur un enclume. Là-bas, c'est des anneaux d'acier qui font à peu près cette grosseur-là, qui te mettent dans le pied puis qui referment avec une masse sur un enclume. Ça s'enlève pas, là. Moi, j'ai passé 42 mois avec ça. Juste au nom de la politique canadienne.
Et comment tu vas finalement sortir de là?
Il y a eu une enquête à Ottawa qui m'avait innocenté, une enquête de la Commission des plaintes du public contre la GRC.
À quel moment?
L'enquête, elle a été ouverte 3 mois après mon arrestation là-bas. Puis vous allez voir l'ironie dans tout ça. L'opération, moi, qui m'a amené là-bas, s'appelait Déception. Puis lorsqu'il y a eu l'enquête à Ottawa, dans toute cette cause-là, à savoir ce qui était arrivé, puis sur la mort de Flanagan, il m'innocentait, mais on a caché le rapport d'enquête parce que c'était trop critique pour la GRC. Puis la commission des plaintes, à l'époque, comme je l'ai découvert, puis comme je viens de l'écrire dans mon nouveau livre qui va sortir au mois de septembre, le directeur de la commission des plaintes, à l'époque du public contre la GRC, c'est un ancien député commissaire de la GRC. Mais ça s'arrête pas là. Durant l'enquête, on a découvert aussi que le député commissaire de GRC en question, qui était le directeur exécutif de la commission des plaintes, mais son meilleur ami, c'était le grand patron d'Opération Déception.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
On se rend compte que tu étais pris dans un tracteur incroyable, donc t'es innocenté. Et là, qu'est-ce qui arrive en prison? Comment tu le sais? Parce que, je veux dire, là, t'as les chaînes aux pieds, tu dors de côté. T'es condamné à mort. Il se passe quoi?
Ben, c'est Victor Malarek, le journaliste de Toronto, qui a fait toute la différence là-dedans. Victor, lui, quand il a vu le communiqué de presse de GRC ici, suite à mon arrestation, il a trouvé ça louche. Il y avait de quoi qui marchait pas. Il venait juste de compléter son livre « Marchand de misère » qui traitait du marché de la drogue. Puis il avait justement passé des semaines en Thaïlande à couvrir tout le market de l'héroïne, puis à Vancouver, Toronto et tout le tralala. Puis il a décidé, lui, de venir me voir. Il travaillait pour le Globe and Mail à l'époque. Puis lorsqu'il est venu me voir à Bambat, la première prison que je vous disais qu'on dormait en cuillère de côté parce qu'il y avait trop de monde, c'est là que j'ai conté toute l'histoire, le scénario de meurtre, les promesses de drogue, les menaces et tout et tout.
Est-ce qu'il t'a cru? C'est comme impressionnant.
Non, il m'a pas cru, ces gars, il avait les yeux grands de même. Il dit, c'est impossible, la police peut pas faire ça. Mais j'ai dit, va te renseigner, puis tout. Puis pendant qu'il a fait son enquête, il a appelé la GRC. Il voulait pas répondre à aucune question. Puis normalement, la GRC ont même collaboré à ses livres au préalable qu'il a fait, puis il a couvert des histoires sur la GRC, des histoires de drogue.
Tout à coup, c'est un bon indice. Hein? À un moment donné, c'était des bonnes sources, tout fonctionne, puis d'un coup, c'est que ça fonctionne.
Ça fonctionne plus. C'est là qu'il y a eu des doutes. Fait qu'il a décidé de venir me rencontrer, puis il a offert à GRC de s'expliquer. Ils n'ont pas voulu. Fait qu'il a écrit un premier article dans le Globe and Mail en mars 89. Puis ça l'a mené à l'enquête de la Commission des plaintes du public à Ottawa. Mais après ça, on s'est perdu de pas, je dirais pas sur ses perdus, mais on n'a pas tenu un contact. C'est allé juste en 95, quand après qu'il y a eu l'enquête à Ottawa, que le rapport officiel est sorti, mais moi je savais qu'il y avait de quoi qui était pas correct. Fait que j'ai fait une demande d'accès à l'information ici au Canada à partir de l'ambassade canadienne pour avoir tout le dossier qu'il y avait à la commission des plaintes.
À ce moment-là, tu es encore en Thaïlande?
Je suis en Thaïlande en prison. Puis c'est là que j'ai mis... lorsque j'ai reçu la première boîte d'accès à l'information, j'avais tout le dossier de la commission des plaintes, sauf le rapport McEwen qui avait été caché, mais je l'ai reçu d'une enveloppe brune quelques jours après.
C'est quoi le rapport McEwen?
C'est Paul McEwen, c'était l'enquêteur qui avait découvert ce qui m'avait été fait, puis qui avait écrit un rapport qui m'innocentait, mais c'était trop critique, le GRC, ce qui fait qu'on a tabletté le rapport, puis on en a réécrit un autre, puis moi, on m'a mis aux oubliettes. Mais Victor Malarek, il y a un enquêteur ici à Ottawa aussi qui avait des contacts avec lui, qui a envoyé le rapport McEwen. Puis à partir de là, il a écrit un livre en 96 qui s'appelle « Gut Instinct », dont un chapitre traitait de mon histoire. Puis ça l'a forcé le gouvernement canadien, en bout de ligne, à me ramener au Canada sous les termes du traité qui était signé entre le Canada puis la Thaïlande à l'époque.
Tu apprends ça comment en prison? Est-ce que tu te rappelles clairement du moment où on te dit « Alain, tu vas sortir d'ici? »
Oh, je m'en rappelle dans ta barouette.
J'espère.
Oui, je m'en rappelle. Sauf qu'encore là, il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours quelque chose dans l'engrenage d'opération déception. Au moment où on m'a amené tous les formulaires pour revenir au Canada qu'il fallait que je remplisse avant d'avoir la signature du ministre Herb Gray à l'époque, on me demandait de remplir telle pis telle affaire, puis on faisait état de tous mes antécédents criminels. Puis c'est là que j'ai vu que j'avais des antécédents pour de la drogue, de la violence, des armes à feu. J'ai jamais eu une étiquette de ma vie, j'ai jamais parlé de police de ma vie, j'ai jamais eu d'antécédents criminels, mais tout à coup, je n'avais un dossier, j'avais 11 convictions criminelles. Puis ça m'appartenait pas. Fait que là, je me suis aperçu vraiment qui m'avait pris pour quelqu'un d'autre. Même, ça confirmait ce que je disais quand le GRC est venu témoigner à mon procès à Bangkok. Ils ont menti au tribunal en disant que j'étais le Pablo Escobar de l'héroïne au Canada. Puis ils sont allés dire que j'avais des antécédents criminels, que je faisais partie du crime organisé, etc., etc. Il n'y avait pas rien de vrai. Mais les juges en Thaïlande, ils voient des membres de GRC, là, des honorables membres de GRC arriver à procès en Thaïlande. Ils s'en viennent là pour faire leur job. Les juges thaïlandais, ils étaient ébahis de les voir là. Fait que c'était leur parole avant la mienne. Puis moi, vous prouvez pire que ça. Quand j'ai entendu dire le GRC à mon procès que j'avais un dossier criminel, moi, je savais pertinemment que c'était pas vrai. J'ai rempli une demande. Pour un background check ici à Ottawa, à la GRC, c'est le superintendant McCormick à l'époque qui m'a renvoyé une lettre me disant que j'avais aucun antécédent criminel. Puis au moment de déposer cette lettre-là devant les juges durant mon procès à Bangkok, les juges l'ont regardé puis ils l'ont laissé tomber. Ils l'ont pas pris en considération parce que dans leur tête, une police, ça peut pas mentir.
Donc, Alain, dans le fond, quand tu arrives ici, toi, à ce moment-là, c'est pour prendre les termes qui sont les bons, t'as le feu au cul. Hein? Tu veux vraiment, tu sais, depuis le début, t'es framé, évidemment, mais là, tu veux, c'est la totale.
Ben, je suis arrivé ici. Ben, j'ai poursuivi quand je suis revenu au Canada.
Mais t'as été emprisonné.
Oui. J'ai parti ma poursuite à partir de la prison à Sainte-Anne-des-Plaines à mon retour. Puis quand je suis sorti, mais c'est pas évident de trouver des avocats. Je m'en prends au procureur général, puis la GRC. Qui est l'institution la plus puissante au Canada, puis je m'envoie les accusés d'être de mauvaise foi, puis je m'envoie les accusés qui ont menti sur la mort de leurs collègues. Je les accuse de m'avoir incité à commettre un crime, des scénarios de meurtre et tout le tralala. Trouver des avocats, ça a été une longue bataille, puis ça a été de cogner à des centaines de portes, puis c'est l'argent que ça coûte, c'est le temps. Un dossier, moi, quand je suis revenu au Canada, j'avais seulement le rapport McEwen dans les mains, puis le dossier qu'il y avait à la commission des plaintes qui était expurgué à 90%, qui était tout édité, que je pouvais même pas voir ce qui était écrit. Il a fallu que je monte mon dossier à partir de ça, ça n'a pas été facile, jusqu'à temps que des avocats décident que oui, il y avait vraiment, vraiment de quoi là pour aller de l'avant qu'une poursuite. Une fois qu'il n'y a plus de corps, ils ont détruit les preuves. Puis moi, je m'en vais dire qu'il manque. Là, la GRC, là, c'est pas n'importe qui. Moi, j'étais un junkie à l'époque. Puis, bien, c'est sûr, j'étais plus junkie quand je les ai amenés à procès ici. Mais quand même, les juges, là, c'est quoi qu'ils regardent, eux autres? C'est quoi qui est le plus impressionnant? Moi, j'ai témoigné pendant 7 jours ici, devant le tribunal, puis le procureur général n'a même pas eu le culot de me contre-interroger sur la mort de Flanagan, sur le scénario de meurtre. Ils m'ont interrogé sur mon premier bouquin, qui est Normand Lester, que j'avais écrit en 2002, c'est tout. Ils ont ignoré tout. Ils savaient déjà, d'après moi, ce qui était pour arriver, de toute façon. Puis après 3 mois de procès, j'avais déjà demandé au juge si la cause était prescrite, si... Puis le juge n'a pas voulu me répondre. Il a laissé aller le procès pendant 3 mois. Puis après 3 mois, il a déclaré que la cause était prescrite. Puis il m'a donné une facture $500,000 en frais de cour. Ça a coûté $2,5 millions à mes avocats en temps puis en argent.
On peut obtenir que c'est une prescription pour poursuivre soit levée si tu es dans l'incapacité.
L'incapacité.
Entre autres, pour des circonstances exceptionnelles.
Puis, on a eu
l'incapacité de se défendre.
Puis on a eu le meilleur exemple de ça, que la prescription est négociable avec les tribunaux, surtout depuis les scandales de pédophilie avec l'Église. Ils ont été obligés d'abolir la prescription dans ben des cas. Mais moi, dans la mienne, ils ont dit non. Les juges, en fait, ont dit qu'à partir de 92, en juillet 92, quand que je me suis fait enlever mes chaînes, qu'à partir de ce journée-là, j'étais capable d'actionner le gouvernement. Ils ont dit que j'étais psychologiquement apte à actionner le gouvernement à partir de ma cellule en prison en Thaïlande, parce que j'avais aucune communication, pas de lit, pas de toilette, pas de douche, pas de visite, pas de téléphone, rien. Ils ont dit que j'étais psychologiquement apte parce que j'étais capable d'écrire des lettres de plainte au gouvernement canadien. C'est le système pour lequel je me bats présentement. Puis comme je l'ai déjà dit à Brigitte puis à Félix, ça fait 30 ans le 19 février que je me bats.
Puis finalement, tu as trouvé des avocats qui t'aident, qui t'ont aidé.
Qui m'ont aidé, mais on s'est fait dire par la cour que la cause était prescrite. Pire que ça, toute la preuve, moi, vu que le corps de Flanagan avait été incinéré, on ne pouvait pas le faire exhumer pour une autre autopsie. Il a fallu que j'attende tous leurs témoignages pour accumuler la preuve, pour démontrer qu'ils mentaient. Puis malgré tout le travail que j'ai mis, un document de 163 pages, c'est 163 pages de parjure, exclusivement de la GRC, sur un moment qui a duré 5 minutes, sur la mort de leur collègue, les juges, ils m'ont traité de menteur, ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que la GRC mentait. Puis c'est avec ça que vous vivez aujourd'hui. Puis je suis vraiment... Il n'y a pas personne qui peut être plus désolé que moi de voir que le système de justice canadien est prêt à laisser tomber. Peu importe l'individu, peu importe si c'est un junkie comme je l'ai été, pour des raisons telles que ça. Vous avez le droit à la vérité. Mais pire que ça, plus que ça, vos enfants, des générations à vivre, à venir, ont le droit, eux autres, d'avoir une garantie que leur système de justice va être là pour les protéger et non pas pour les détruire comme le procureur général a essayé de faire dans ma cause.
Alain-Olivier, merci pour ce lapsus, pour les années à vivre, parce que manifestement, ça a été privé de ta vie.
Bien là, il y a des bonnes choses qui s'en viennent.
Tu le mérites très bien. Je voudrais te témoigner en mon nom, au nom de Brigitte aussi, l'admiration qu'on a devant toi. L'humilité avec laquelle tu rencontres ce parcours-là, d'une part. Merci. Et d'autre part, l'œuvre utile que tu fais pour témoigner de ce grand sentiment de reconnaissance que l'on a envers vous, j'aimerais que vous puissiez témoigner aussi à Alain votre reconnaissance qui soit venue ici en lui posant des questions que vous désirez lui poser, parce qu'on a réservé une période pour ça.
C'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas personne ici qui a jamais posé une question à quelqu'un qui a été condamné à mort. Hein. Ça peut rendre les gens timides un peu. Mais gênez-vous pas, moi, je suis ouvert. Peu importe vos origines, vos croyances, j'ai l'oreille ouverte, puis je suis prêt à écouter vos questions, parce que cette histoire-là, c'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de vous autres.
Julie, je me demandais, je suis pas certaine d'avoir compris quand, dans votre récit, vous avez compris qu'il s'agissait d'agents de la GRC.
Ben, lorsqu'ils m'ont arrêté, ils sont même crié « police, police ». Fait que là, je me suis aperçu que c'était vraiment des polices. J'ai pas eu le choix, puis surtout, dans le contexte où j'étais là,
Lorsqu'il y avait l'échange...
Lorsqu'il y a eu l'échange, lorsqu'il était sûr que la drogue était là, il y en a un ou deux qui s'est mis à crier « police, police ». Puis moi, lorsque je me suis éloigné de la scène, mais il y en a un des autres qui était à deux coins de rue plus loin, qui s'est emmené en courant, puis qui a sauté sur moi, qui m'a arrêté.
Deux questions rapides. Selon vous, il y a combien de cas comme vous?
Dans toute l'histoire judiciaire au Canada, malgré que les dernières causes qu'il y a eu depuis 2012 dans l'histoire de Mr. B, que ce soit Alan Smith, Perrault ou les autres, il n'y a pas personne qui a une cause comme moi au Canada. C'est une première, puis ça va beaucoup plus loin là, quand c'est rendu que même des juges, le tribunal se ferme les yeux sur des agents de la GRC qui mentent sur la mort de leurs collègues, puis qui ont la preuve devant leurs yeux. C'est ça qui fait mal. Parce que je m'attendais qu'au Canada, qu'on ait un système de justice qui soit franc, honnête et égal pour tout le monde.
Florence, je veux juste donc éclaircir ce point-là. Le malheureux policier, puis on peut l'appeler comme ça, qui s'est pris la balle dans la tête, qui faisait partie du scénario. Juste éclaircir ça.
Derek Flanagan, c'était un des membres de la GRC qui est venu en Thaïlande.
Alors, il s'est fait prendre son propre jeu. On lui a mis une balle dans la tête.
C'est son partner qui a mis une balle dans la tête.
Accidentellement.
Parce que ça conclut donc parfait. D'autres personnes, merveilleux.
Alors, je m'appelle Rose. Est-ce que vous êtes encore capable de faire confiance à qui que ce soit?
Oui.
Comment vous avez réussi à retrouver la confiance?
Je fais pas confiance à tout le monde. Sauf que quand que j'ai passé un instant avec les gens, les regarder dans les yeux, puis à les écouter... J'ai une petite alarme dans ma tête qui part ou qui part pas, mais qui me dit, moi, ça, tu peux faire confiance, ça, non? Puis aujourd'hui, avec le temps, je me fie pas mal plus à mon instinct qu'à l'époque. Pas mal plus. On apprend avec le temps. On reconnaît un paquet de choses. On reconnaît des signes que des années avant, j'aurais pas pu reconnaître la situation pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, oui. Puis c'est à cause de ça que je continue, puis j'ai l'intention de continuer à me battre. La cause est bonne, est honnête, c'est pas vous autres.
J'ai pas suivi, à un moment donné, t'as arrêté de prendre de l'héroïne, comment ça s'est passé, ce processus-là, puis comment ça t'es pas retombé dedans, avec toutes les histoires juridiques qui t'ont poursuivi depuis ces années-là?
Ah ben c'est simple, parce qu'en 92, quand je suis passé de la mort à la vie, que c'était assuré, je me ferais pas exécuter, ça faisait déjà à peu près quasiment 120 jours que j'étais dans le trou. Je vivais dans une cage en ciment parce que j'étais en punition par les autorités pour avoir voulu créer un comité de prisonniers avec d'autres amis. Puis quand je suis sorti de là, mais j'ai passé mon appel pendant que j'étais en isolement. Puis à ma sortie, mais un vieux Chinois que je connaissais, un vieux Birman, Birman chinois qui me dit que j'avais une raison de vivre à présent que je n'étais plus condamné à mort. Puis la journée d'avant, une de mes amies venait de mourir d'un overdose à côté de moi. Puis c'est lui qui m'a fait comprendre que la même chose était pour m'arriver si je n'arrêtais pas. Fait que j'ai arrêté de prendre l'héroïne. J'ai été 14 jours embarré dans ma cellule sans dormir. Je fumais à peu près une once de pot par jour pour enlever le mal. J'ai été malade 3 mois de temps. À détremper ma couverture tellement que les toxines continuaient à me sortir du corps. Puis à partir de là, j'ai recommencé à m'entraîner. J'avais fait des arts martiaux pendant plus d'une décennie à l'époque. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à l'intérieur de la prison. Puis je me suis dit, c'est la seule façon que j'étais pour revenir au Canada. Sinon, je serais revenu les pieds devant. Puis au fur et à mesure, je me suis entraîné, mais j'ai retrouvé... mes capacités mentales, disons, parce que mon cerveau était au ralenti. Parce que je ne veux pas qu'on comprenne l'héroïne, que ce soit notre production de mélatonine, de sérotonine, etc., etc. Il y a des parties de notre cerveau qui tombent au sommeil. Puis une fois qu'on arrête, mais ça repart. Au fur et à mesure que notre niveau de sérotonine se rétablit, c'est un long processus. Mais l'entraînement m'a ramené à ça. Puis c'est ça qui m'a ramené aussi à me battre contre le gouvernement à partir de ma cellule là-bas pour que vérité se fasse. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire que les drogues dures, pour moi, c'est, ça fait longtemps que c'est chose du passé. J'ai plus besoin de ça, mais les années que j'en ai pris, quand j'étais en prison là-bas, je vais vous dire, bien franchement, si j'avais pas pris d'héroïne les trois premières années et demie, je pense que je serais peut-être mort. L'héroïne m'a permis de fuir la réalité de mon quotidien. Puis ça m'a, du moins, je me disais à moi-même que ça me tenait fort, hein. Mais aller jusqu'à temps que je réalise que c'était pas mal plus que ça. Puis quand j'ai eu vraiment une raison de vivre, en sachant que je me ferais pas exécuter, j'ai décidé que j'étais pour me battre pour revenir au Canada. Puis à travers tout ça, moi, ce qui m'a bouleversé probablement le plus, c'est les êtres aimés qu'on perd sans avoir eu le temps de leur dire qu'on les aime. Moi, ma mère est morte une semaine après le lancement du livre de Malarek, qui est, une fois qu'elle a su que j'étais innocent, elle est morte une semaine après, juste avant que je revienne au Canada. Puis il va falloir vivre avec ça toute ma vie. Moi, j'ai pas eu la chance d'y dire « je t'aime ». J'ai pas eu la chance d'y dire « merci » pour tout ce qu'elle a fait. La seule affaire que j'ai pu faire, c'est carrément la perdre. Mais au moins, j'ai eu la joie de me dire qu'elle est morte en sachant que son fils était innocent des choses pour lesquelles elle avait été accusée. Mais on vit pareil avec ça. Puis souvent, comme je disais à mes étudiants ici à l'université, quand je donne des conférences à Ottawa, ou peu importe à Montréal et à Toronto, je leur dis tous de jamais oublier de dire « je t'aime » à ceux qu'ils aiment. Parce que peut-être, vous allez vous lever un matin, vous n'aurez pas cette chance-là. Puis vous allez vivre avec ça toute votre vie. Moi, je vais être pris pour vivre avec ça. Ma mère, elle, elle m'écrivait toutes les semaines. Elle était prise du cœur, mais elle trouvait le moyen de m'écrire parce que chaque lettre représentait de l'espoir. Elle avait pour son dire que l'espoir, c'était la nourriture des pauvres. Puis en m'envoyant des lettres, mais elle m'aidait à m'accrocher, puis à continuer à me battre. Puis aujourd'hui, je me bats encore à sa mémoire parce que je lui ai promis, j'étais pour faire la vérité. C'est pas un péché de se battre pour la vérité. C'est une question de bon sens pour tout individu, pour toute société qui se respecte puis qui souhaite entretenir la viabilité d'un système de justice pour les générations à venir. Puis oubliez-le pas. Faites-le pour vos enfants, les enfants de vos enfants. C'est leur système de justice à eux autres. Moi, alors, je suis rendu là, c'est plus pour moi que je me bats. Je suis rendu à 60 ans, là. Je me bats bien plus pour toutes vous autres, puis ce qui s'en vient par la suite, ça dépend juste de vous autres. Si vous êtes prêts à vous battre pour avoir un système de justice qui va vous représenter honorablement, contrairement à ce qui est arrivé dans ma cause. Puis ça me fait de la peine de voir que c'est ça que j'ai vécu au Canada.
Merci tellement, Alain.
Merci.
Un grand merci au Festival Transistor pour son accueil à Gatineau. À l'animation, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël.
À la régie, Bastien Gagnon, La France.
Au montage, Anne-Sophie Carpentier.
Au mix sonore, Philippe Séguin.
À ne pas confondre avec Félix Séguin.
Merci beaucoup.
Une production Cube Radio.